RFI, il est 7h30 à Paris, 5h30 en temps universel.
RFI Matin.
L'actualité africaine avec Arthur Ponchelet. Bonjour Arthur.
Bonjour Marion et bonjour à vous qui nous écoutez.
À la une, ce matin, prudence et interrogation en RDC.
Deux jours après, la visite de Joseph Kabila à Goma fait réagir la classe politique congolaise. On est à Kinshasa dès le début de ce journal. Des tirs et des affrontements entre policiers et détenus à Mongo dans le centre du Tchad. Une centaine de prisonniers se sont évadés dans la nuit de vendredi. Au sommaire également, les autorités gabonaises relancent la contribution foncière unique. Réaction de Human Rights Watch au procès des 40 en Tunisie. L'ONG parle de simulacre de justice. De la musique, on vous emmène au cœur du seul festival de reggae de Madagascar et puis le journal des sports dans une dizaine de minutes. Et le triomphe du Maroc en foot, le royaume nouveau champion d'Afrique des moins de 17 ans. Il ne s'est même pas encore exprimé publiquement, que déjà les réactions s'enchaînent. Entre prudence et interrogation, la visite de Joseph Kabila à Goma fait réagir. L'ancien président congolais était dans le chef-lieu du Nord Kivu vendredi. On ne sait pas s'il s'y trouve encore. En tout cas, à Kinshasa, cette visite suscite de nombreuses questions. Pascal Moulégois, la classe politique congolaise retient son souffle.
Moi, je n'ai pas vu. J'ai entendu, évidemment. On a lu les articles. On attend de voir. On attend d'écouter.
Samedi, devant la presse à Lubumbashi, Patrick Muyaya, le porte-parole du gouvernement, avance à pas prudent, car les retours annoncés de Joseph Kabila à Goma sous contrôle des rebelles de l'AFC M23 soulèvent de nombreuses interrogations.
Le président de la République en avait parlé depuis plusieurs semaines. Il disait que son prédécesseur était lié à l'AFC depuis plusieurs mois. Bon, maintenant, qui décide de revenir? Je n'ai pas encore la confirmation. Bon, on verra ce qui sera dit, parce qu'il ne faut pas oublier que le président Kabila lui-même a combattu les M23.
Prudence également au sein du PPRD, le parti de l'ancien président. Ferdinand Kambere, l'un des agents du secrétaire permanent, balaye tout soupçon. Il assure que Kabila n'a aucun intérêt à pactiser avec une rébellion qu'il avait lui-même chassée en 2013.
On a hâte de connaître pourquoi cette guerre a repris, alors que l'ancien président de son temps avait trouvé une solution. Pourquoi Félix continue à se cacher derrière des boucs émissaires, alors qu'il a toujours demandé de parler avec Kagame, qui est considéré comme le patron du M23. La piste royale à suivre, c'est que tous les Congolais, toute tendance, on soit associé à un dialogue national inclusif.
Une chose est sûre, Kabila compte prendre la parole dans les prochains jours à partir de Goma et son conseiller diplomatique promet déjà un discours qui fera date. Pascal Moulégois, Kinshasa, RFI.
Lui s'est exprimé hier soir. Le cardinal Ambongo a délivré son message pascal. L'archevêque de Kinshasa a parlé de morosité générale, de désespoir, de misère sociale même. Il dit encourager les Congolais à accueillir l'initiative dite du pacte social pour la paix et du bien vivre ensemble de la CENCO et de l'ECC. L'actualité en RDC, ce sont aussi ces négociations entre le gouvernement et les États-Unis. Discussion autour d'un accord minier entre les deux pays. Elles ont bien lieu. Massad Boulos, le conseiller de Donald Trump pour l'Afrique, l'a confirmé cette semaine. Mais de quoi est-il question? Quels sont les enjeux de ce potentiel accord? On vous raconte tout sur RFI.fr. Que s'est-il passé à Mongo? Les détails sont encore flous, mais cette ville du centre du Tchad a vu une centaine de prisonniers s'évader de la prison. C'était vendredi soir. Des affrontements et des tirs ont éclaté entre des prisonniers et entre des policiers. Policiers et certains détenus, il y aurait des morts, mais on n'en connaît pas pour l'instant le nombre exact, Paul Lorgerie.
Les premiers signes de soulèvement ont commencé aux alentours de 21h20. Selon une source sur place contactée par l'AFP, les prisonniers s'en sont d'abord pris au bureau du régisseur de la prison avant de s'emparer des armes qui s'y trouvaient. Des échanges de tirs ont alors eu lieu entre les gardiens et certains mutins. Alerté, le gouverneur de la province, Abdoulaye Ibrahim Siam, s'est aussitôt rendu sur les lieux. Selon de nombreux médias, il fait partie des trois personnes blessées par balle lors de l'altercation. D'après un bilan provisoire donné par le site d'information Tchad Info, 4 personnes sont mortes lors des affrontements et 132 en ont profité pour prendre la fuite. Tous des prisonniers de droit commun, a précisé un responsable administratif dans la ville de Mongo. Un bilan encore mitigé, nous prévient le ministre tchadien de la Justice, Youssouf Tom, qui a demandé à ce que les chiffres soient vérifiés avant de prendre la parole. Selon le ministre, le procureur de la localité s'est rendu sur place pour s'assurer de l'identité des prisonniers encore présents, afin de pouvoir établir une liste claire des personnes s'étant évadées et les raisons de la mutinerie.
Paul Lorgerie, au moins 56 morts dans des attaques au Nigeria. C'était dans la nuit de jeudi à vendredi dans l'état de Benue, bilan encore provisoire. Au début du mois, dans l'état voisin du Plateau, plus de 100 personnes avaient été tuées dans deux attaques perpétrées par des hommes armés non identifiés. La Guinée équatoriale envoie-t-elle des dizaines de jeunes combattre en Ukraine ? Non, répond le vice-président sur les réseaux sociaux. Un journal en ligne proche de l'opposition en exil l'affirme pourtant. Selon le titre, il s'agirait d'une contrepartie à la présence des mercenaires russes dans le pays. Ils ne vont pas à la guerre, dit le vice-président équato-guinéen, mais plutôt étudier dans les universités de Russie. Compenser la baisse des revenus du pétrole, c'est l'objectif du gouvernement au Gabon. Et pour cela, il mise sur les recettes fiscales avec un impôt sur le foncier. C'est la contribution foncière unique créée il y a 2 ans, largement ignorée jusque-là. Mais désormais, l'État serre la vis. Si les détenteurs d'un titre foncier ne paient pas dans les 10 jours, ils seront sanctionnés. C'est ce qu'ont expliqué hier des responsables de la Direction générale des impôts, Yves-Laurent Goma.
Face à la presse, Paul Abessolo et Sominto, directeur de la législation et du contentieux, a expliqué l'historique de cet impôt.
Cet impôt résulte de la fusion de 2 anciens impôts, à savoir la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties. Elle visait à simplifier les procédures et aussi à alléger la charge fiscale pour permettre à un plus grand nombre de nos concitoyens de s'en acquitter.
Sa collègue Delphine Sungani, en charge du foncier, précise la liste des contribuables appelés à payer l'impôt sur le foncier.
La CFU est due par tous les propriétaires immobiliers. En l'état actuel des choses, il s'agit de ceux qui sont détenteurs de titres fonciers et les locataires de l'État sur une longue durée.
Le paiement de la contribution foncière unique représente 1% des recettes fiscales. Mais pour Stéphanie Minko-Minko, responsable des relations publiques à la Direction générale des impôts, il faut aller plus loin.
La contribution foncière représente à peu près 13 milliards de francs CFA. Et nous attendons qu'il y ait au moins le double, c'est-à-dire à peu près 30 à 40 milliards.
Pour l'heure, l'État gabonais n'a délivré que 14 000 titres fonciers. Les Gabonais n'ayant pas ce document ne peuvent donc pas être assujettis à ce nouvel impôt. Yves-Laurent Goma, Libreville, RFI.
La société civile au Cameroun demande aux autorités de mieux lutter contre la torture dans les commissariats et les gendarmeries. C'est le Mandela Center qui le dit. Après une garde à vue de plus de 2 semaines et des soupçons de mauvais traitement pour un jeune homme de 22 ans arrêté pour un vol de moto à Yaoundé, 5h38 en temps universel. Une décision politique, une parodie de justice. C'est ainsi que réagissent beaucoup d'organisations de défense des droits de l'homme en Tunisie. Au lendemain du verdict dans le procès du complot contre la sûreté de l'État, jusqu'à 66 ans de prison ont été prononcés dans cette affaire. Une quarantaine de personnes étaient sur le banc des accusés, toutes des personnalités publiques ou politiques. Ce matin, sur notre antenne, Human Rights Watch dénonce un retour en arrière pour la démocratie en Tunisie. Ahmed Benchemsi est porte-parole de l'ONG pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.
C'est une parodie de justice, c'est une hérésie judiciaire et c'est une confirmation ultime, s'il en fallait, que la Tunisie, sous le président Saïd, a dérapé vers l'autoritarisme le plus débridé. De nombreuses, très nombreuses règles qui garantissent un procès équitable ont été violées pendant que le procès avait lieu. Quant au fond, écoutez, on a consulté, quand je dis nous, c'est Human Rights Watch, nous avons consulté les 140 pages de l'ordonnance de clôture du juge d'instruction et on n'a absolument rien trouvé qui substancie ces graves accusations d'attenter à la vie du président. Et il y a aussi une formule que je trouve assez audacieuse. Et ils sont inculpés d'avoir tenté de changer la nature de l'État. Mais qu'est-ce que la politique sinon de changer la nature de l'État ? De quoi parle-t-on ? C'est une manière de dire, si vous faites de l'opposition, c'est illégal. Quand on voit les procédures judiciaires et la manière avec laquelle elles sont totalement instrumentalisées, la justice a perdu toute indépendance, et au final, le président règle ses comptes avec ses opposants, ça ressemble beaucoup à Ben Ali. Les acquis de 14 ans de révolution ont été jetés à la poubelle.
Le porte-parole de Human Rights Watch pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Eux sont accusés de détournement de fonds publics à Maurice. L'ex-ministre des Finances et l'ancien gouverneur de la Banque de Maurice ont été arrêtés 2 fois ce mois-ci. Tous les deux sont visés par une enquête sur des détournements de fonds Covid mis en place pendant la pandémie. Des sommes colossales pour soutenir les entreprises, mais qui sont désormais au cœur de soupçons, Abdoulaye Rali.
Interdit de quitter le territoire depuis janvier, l'ex-ministre des Finances a été arrêté deux fois ce mois-ci et a passé cinq jours en détention. Ranganathan Padayachi serait impliqué dans des détournements présumés d'un fonds Covid. Il est visé par deux enquêtes. D'abord, un prêt suspect d'environ 1 million d'euros à une société liée à l'ancien régime. Ensuite, un détournement d'environ 6 millions d'euros lié à l'achat d'actions d'un groupe hôtelier à un prix gonflé. Padayachi n'est pas seul. L'ex-gouverneur de la Banque de Maurice, Arvesh Sigolam, a été aussi arrêté deux fois pour les mêmes raisons, car le fonds Covid était géré par une filiale de la Banque centrale. De même, l'ex-patron de ce fonds est également sous le coup d'une arrestation. Depuis la chute de l'ancien gouvernement en novembre dernier, les enquêtes pour malversation se multiplient. L'ex-premier ministre Pravin Jugnauth et l'ex-ministre de la Justice Manish Gobind ont été arrêtés. De même, cinq sociétés proches de l'ancien gouvernement sont soupçonnées d'avoir profité de ces fonds. Abdullah Erali, pour lui, RFI.
Et pour lutter contre la corruption, encore faut-il la dénoncer. C'est justement l'un des objectifs du week-end à Fianna Rantsou. Cette ville du centre de Madagascar vibre au rythme du Fianna Reggae Festival, le seul festival de reggae de la grande île. Des artistes malgaches, mauriciens ou encore réunionnais sont à l'honneur. Guillaume Fabry en a rencontré quelques-uns. Reportage.
En 10 éditions, l'unique festival de reggae de Madagascar a vu éclore toute une génération d'artistes à l'image du groupe Zanatarai qui a ouvert la soirée d'hier. Les messages engagés que portent ces chanteurs sont plus que jamais nécessaires, estime Christian Regassi, à l'origine de l'événement.
Le problème, déjà, à Madagascar, il y a pas mal de chaînes radio et télé qui n'osent pas diffuser notre musique à cause de ce qu'on dénonce. Il y a beaucoup de corruption dans l'île. Et on parle de l'État qui doit faire quelque chose pour le peuple, quoi. Et maintenant, il y a beaucoup de reggae-man dans toutes les provinces. On a l'espoir que cette musique-là va être écoutée par tout le monde, le plus jeune jusqu'au plus vieux. Hey,
Jassiel Rabeatonine est membre du groupe Jarouts Malagasy Revolution, une référence sur la scène reggae malgache.
Il y a des musiques en fait pour danser juste. Et moi, le reggae, je pense que c'est une musique pour t'élever, c'est une musique qui te libère des chaînes mentales. Le reggae, c'est un des seuls moyens, moi je pense aussi pour les Malagas, d'être conscients que nous-mêmes, tu vois, on est fort, on est puissant, on peut avancer, on peut s'entraider entre nous-mêmes. J'essaie de transmettre ça dans ma musique et dans ce que je fais.
Le Fianna Reggae Festival a maintenant l'ambition de faire rayonner les artistes malgaches dans des festivals étrangers. Guillaume Fabry, Fianna Rantsou, RFI.
Et ce soir, dernière soirée à Fianna Rantsou à partir de 18h, Eka, Zao, Six Watt ou encore Jafazon seront sur la scène du Fianna Reggae Festival. Pour l'instant, eh bien, c'est Marion Kazanov qui se produit sur la scène d'RFI Matin. C'est à vous, Marion.
Oh, merci Arthur Ponchelet. À tout à l'heure. Il est 7h43 à Paris. 7h43 à Paris.